Des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Clotilde Seille en studio, ici dans le chic studio de Canal M, devrais-je dire, dans les bureaux de chez Vues et Voix. C'est l'émission Des livres plein les oreilles qui commence, et des livres, il en sera beaucoup question. J'ai encore beaucoup de titres à vous proposer aujourd'hui, et j'ai aussi de formidables invités. Vous allez reconnaître Huguette Roussel, avec qui je vais commencer cette émission-là. Huguette qui est devenue une habituée maintenant, comme en tant que chroniqueuse non-voyante. Et puis également Serge Bradet, que vous connaissez bien parce qu'il vient parfois le matin à la radio aussi pour nous parler d'histoire, tout ça. Et puis là, il a dit, moi aussi, je vais en faire, je vais aller faire tes émissions. Il faut dire que, absolument, Serge, vous êtes aussi moniteur ici, et que, donc, oui, oui, ou du moins, vous l'avez été très longtemps.
Oui, oui, oui.
Voilà. Et puis, elle est également en studio et je l'accueille. Je lui dis bonjour tout de suite, Marie Laberge. Bonjour.
Bonjour.
Ravie vraiment de vous avoir ici comme invitée. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation-là. Dans quelques secondes, je m'adresse à Huguette Roussel. Bonjour Huguette.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais toujours bien.
Toujours bien, l'été s'est bien passé?
C'est très chaud.
Ah, oui, c'est vrai que ça l'a été pas mal. Huguette, vous êtes une grande admiratrice de Martin Michaud. Me semble me souvenir, c'est pas la première fois que vous nous parlez d'un livre de Martin Michaud.
Oui, c'est la première fois.
C'est la première fois?
Oui, oui.
Ah.
Je l'ai découvert en période estivale, pendant les chaleurs de juillet.
Oui.
Et je ne l'avais jamais lu encore.
Est-ce que vous savez qu'il est déjà venu ici comme invité?
Eh bien, oui, j'ai entendu dire ça, mais dans ce temps-là, je ne savais pas que l'émission existait, donc je ne l'ai pas entendu.
Ah, mais vous savez que si vous allez sur le site Internet, est-ce que vous êtes branchée, vous, ou pas du tout, Huguette?
Ben, je n'ai pas le choix, je travaille, donc il faut que je sois branchée.
Voilà, parce qu'à ce moment-là, si vous allez sur le site, peut-être qu'on peut encore trouver l'émission, vous savez, si vous allez... À l'époque, ça s'appelait Un livre découvert, mais on est quasiment convaincus, vous pourriez réentendre avec Martin Michaud, qui avait été absolument charmant, d'ailleurs.
Il l'est.
Ah, oui. Marie Laberge acquiesce. Opine du bonnet.
Si vous acquiescez, c'est parfait.
Alors, il ne faut pas parler dans l'ascenseur.
Oui, j'ai découvert ce livre-là. Au début, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, oh, je ne lirai pas ça, ça doit être plat.
Pourquoi donc?
Quel préjugé. Je ne sais pas. À cause du titre, je me dis, je sais pas.
Vous avez dû penser à musique d'ascenseur. Vous avez dit musique d'ascenseur.
J'ai pensé au centre d'achat, musique d'ascenseur. Ça m'a comme un peu...
Non, mais c'est intéressant parce que comme quoi un titre...
L'importance
d'un titre, dit Marie Laberge, oui.
Vous avez raison.
Et je me suis lourdement trompée.
Oui, c'est trompé de titre.
Alors là, j'ai très hâte de savoir comment vous allez nous présenter ça. Parce que... honnêtement, moi, je ne l'ai pas lu, ce livre-là, mais j'ai lu beaucoup sur ce que les gens en ont dit. Et tout le monde a dit, comment on va vous parler de ce livre sans en vous révéler la teneur? Alors, allez-y, je vous laisse aller.
Bien, je ne sais pas comment je vais faire, sauf que ça se raconte difficilement sans que je me mette les pieds dans les plats.
C'est ça. Donc, vous dites comment c'est ça. C'est donc, difficile.
Oui, c'est certain que... Il y a un parallèle intéressant, ce que je vous dirais, au niveau de la rencontre, comment je pourrais dire, pas fantastique, mais d'une rencontre avec deux personnes qui sont dans le coma, les esprits se rencontrent. Et de l'autre côté, il y a des meurtres. Donc c'est complètement, j'avais jamais lu un livre comme ça, avec des rencontres qui parlent de qui se transmettent des messages via le coma, qui se parlent, qui se rencontrent, qui vont au cimetière.
On est un peu perdu au début.
Oui, ben c'est-à-dire qu'au début, les meurtres, ça commence comme ça, ça commence par des meurtres. Mais ensuite de ça, la personne qui doit aussi se faire tuer, la deuxième personne qui doit se faire tuer, ne meurt pas. C'est là qu'elle rencontre sa personne qui est toujours dans le coma.
Okay.
Et elle tombe presque en amour avec cet homme-là, mais on se rend compte que c'est avant son temps, avant qu'elle soit née. Donc, c'est...
Oh là là, oui, je comprends pourquoi c'est complexe.
Oui, c'est un petit peu complexe, mais parallèlement, là, les gens continuent à mourir. Victor Lessard, l'enquêteur officiel, continue à enquêter puis il trouve rien. C'est assez... il trouve presque à la toute fin, mais il se pose des questions relativement à la personne qui est dans le coma, thérapie, Simone Fortin. Donc, elle, lui, comprend pas. Il pense que c'est un gang de
parapsychologues, genre?
Non, lui, il pense que c'est une gang d'échangeurs de sexe. Là. Aucun rapport avec ce que je vous dis. Là. C'est
okay.
vraiment...
mais c'est... Mais attendez, excusez-moi, parce que là, on se dit, mais... OK, à un moment donné, là, est-ce que tous ces liens-là finissent par...
Ben, ça finit par se comprendre. Ça se rassemble oui. à la fin, oui. Puis là, on comprend pourquoi telle personne...
Ah bon?
Parce que Mme Fortin a changé de vie.
Bon.
Auparavant, elle était médecin.
OK.
Je vous lance juste des fions comme ça.
Oui, 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 d'accord. Oui, non, mais regardez, je me doutais que ce serait un peu décousu comme ça parce que je savais que le livre l'était. Mais allez-y, Huguette, ça va bien.
Ben, auparavant, elle était médecin et quand elle s'est fait frapper, elle travaillait à Montréal. Elle était, elle s'occupait de au niveau de elle était comme webmaster sur Internet dans une compagnie. Donc, c'est pas du tout ce qu'elle faisait avant parce qu'elle voulait plus, elle voulait pas être là, elle voulait plus continuer parce qu'il y a eu quelque chose au niveau de l'urgence, parce qu'elle était médecin à Québec, à l'hôpital de Québec.
OK. Elle était urgentologue.
Urgentologue à l'hôpital Enfant-Jésus.
D'accord.
Donc, mais le lien se fait par rapport à elle, par rapport au meurtre. C'est le noyau central.
Bon.
Mais au début, on ne le comprend pas comme ça.
Bon, dites-moi. Au niveau de l'écriture, parce que Martin, il a une écriture solide, il a une écriture... Est-ce que c'est quelque chose que vous avez apprécié?
Oui, tellement que je suis rendue au troisième livre.
Ah oui, en effet. mais c'est parce que là, on a l'impression que tout est noir. Mais il y a des éléments drôles dans ce livre-là.
Il y a beaucoup d'humour dans
Bon, il y a beaucoup d'humour.
Oui. On ne pense pas que ça arrive, que l'humour va arriver, mais c'est là, c'est présent. C'est tout au long des livres. Chaque livre a son humour.
J'ai lu quelque part qu'il y avait un peu de David Lynch là-dedans, un peu de la série X-Files, un peu tout ça, quoi, finalement.
Ben ça, je peux pas vous dire parce que je les connais pas. Mais comme ce que vous avez nommé,
C'est bien correct.
Je n'ai pas de réponse, là. Je peux pas
D'accord. est-ce que ça vous surprend si je vous dis que l'univers de Martin Michaud va être prochainement adapté en série?
Ben, je suis allée sur son site Internet.
Et vous l'avez vu?
Oui, mais sauf que c'est pas accessible complètement. Il y a des choses que j'ai pas lues avec la synthèse vocale, donc je ne sais pas.
Bon, alors écoutez, en fait, la première série qui sera incarnée, le commissaire Lessard, ce sera incarné par Patrice Robitaille.
Ah, oui, bon, OK.
Madame Jacinthe Taillon sera incarnée par Julie Le Breton.
OK.
Deux comédiens qui ne chôment pas.
Non. Hein.
Ils chôment tellement pas qu'on les confond. Tiens, il n'est pas mort, lui. Ah non, c'était dans une autre série. En tout cas, bref, toujours est-il qu'ils vont... Voilà, ce sera une série de 10 épisodes et... là, j'entends déjà dans les chaumières des « Ah !» Oui, mais il va falloir avoir illico pour pouvoir le regarder. « Oh !» Ah, bah oui.
Ah, bah oui.
Bon, alors voyez-vous, donc, ce sera fait sur le roman « Je me souviens ».
Ah, et... j'ai pas encore lu celui-là.
Ah bon? Bon, alors
c'est... Je suis rendue à celui-là à lire.
D'accord. Écoutez, Huguette, ne vous inquiétez pas, je vous dis, moi, je me doutais qu'il ne serait pas facile de parler de ce livre-là. Tout ce que j'avais lu sur le sujet le disait. Vous vous en êtes très, très bien tiré. Je vous remercie beaucoup de l'avoir fait.
Donc, c'est certain que quand j'avais décidé de choisir ce livre-là, je me disais que je parlerais des parallèles. C'est ce que je m'étais dit d'entrée de jeu.
Vous voulez dire les parallèles avec d'autres livres de...
Non, les parallèles entre les meurtres et les messages...
Ah, c'est ça, d'accord. Oui, je comprends.
Mystique ou...
Oui. Non, mais le message est passé, puis je suis sûre que les amateurs du genre vont aller chercher le livre. Et c'est ça qui est important. Vous savez comment j'aime qu'on parle des livres à cette émission-là.
Bien sûr, on est là pour ça.
On est là pour ça.
Oui.
Alors, Huguette Roussel, je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite une très belle journée. Puis je vous dis à bientôt sur les ondes.
Bien, bonjour à tous.
Allez, merci. Au revoir. Salut.
Au revoir.
Marie Laberge, 40 ans d'écriture, l'an dernier.
Oui.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se fête et vous avez fêté ça en grand, non pas avec un, mais deux livres.
Oui, je trouvais ça important de faire un cadeau au lectorat. Parce que 40 ans d'écriture sans lecteur, c'est 40 ans de misère. Hein?
Oui, mm-hmm. Oui.
Et c'est 40 ans de tristesse. Et Dieu alors, sait, et Dieu j'ai sait... eu beaucoup de joie.
Oui, et Dieu sait que vous êtes lue en plus. Alors, oui. C'est vraiment extraordinaire. Vous êtes une des auteurs les plus lues. Du Québec. Et ça, c'était d'ailleurs la raison pour laquelle je me disais, il faut à tout prix qu'on arrive à
se voir toutes les deux.
À se voir et puis surtout aussi à ce que les auditeurs puissent profiter de votre présence ici. Je ne reviendrai pas sur les 40 ans de carrière en 15 minutes.
Non, sans doute.
Mais je voudrais par contre qu'on passe du temps sur ces deux livres-là que j'ai sous mes mains en ce moment. Et on va commencer par l'essai.
D'accord.
On va commencer par l'essai 13 verbes pour vivre, qui est un petit bijou de livre. Et ben, honnêtement, je me disais, et c'est ma première question, d'abord, on va dire un petit peu de quoi il s'agit. 13 verbes pour vivre, 13 verbes pour s'intensifier, et là, pour intensifier, pardon, et je vous cite, approfondir, élargir celui de vivre. Donc, 13 verbes qui trouvent leur écho dans votre vie d'auteur, Marie Laberge. Comment? Pourquoi? Comme ça, tout d'un coup, vous êtes... Moi, je me suis dit ça, c'est autour d'une table. Avec un bon petit verre de vin, on parle...
même pas,
dis
même
donc,
pas.
Toi, c'est quoi tes verbes importants? Non, même pas!
Même pas, même pas. Comme je l'explique un peu dans l'avant-propos, c'est que quand j'ai eu 40 ans, oui. Je me suis dit, oh, ça serait intéressant de faire une sorte de liste des verbes que je trouve très, très importants et de dire pourquoi. Et puis, à 50 ans, de les relire et de recommencer pour voir si ça reste les mêmes verbes. Puis le refaire aussi à 60 ans. Et quand j'ai eu 40 ans, je ne voyais pas mes 70 ans. Bien sûr, parce que on voit ça tellement loin, oui. Tellement peu. Mais ce n'est pas vrai. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que quand j'ai eu 40 ans, j'étais dans le théâtre et je travaillais énormément et je n'ai pas eu le temps de le faire. Quand j'ai eu 50 ans, c'était la trilogie.
Oui.
Et quand j'ai eu 60 ans, c'était Martha.
Ah, ben oui.
Alors, c'était
bien
les lettres
sûr.
De Martha. Alors, finalement, je ne l'ai jamais fait. Et tout à coup, je me suis dit, oh, ça fait 40 ans de carrière cette année. Et là, ça m'a fait, tiens, 40 ans, tu te souviens-tu, tu voulais faire les 13 verbes? Puis là, je me suis dit, ben, peut-être qu'on ne change pas tant que ça dans une vie, alors fais-le donc rien qu'une fois.
Et pourquoi 13?
Oh, parce que je suis une fille qui préfère les chiffres impairs. Et parce que je trouve que la douzaine, ça faisait un petit peu mesquin, ça faisait cheap un peu, ça faisait...
On va vous rajouter un 9 à la douzaine, madame.
J'ai toujours adoré ça. Dans le blé d'Inde, oui. Ils font beaucoup ça.
Oui. C'est vrai.
Au
c'est
marché, ils disent, ah oui, non, un autre pour la loque. J'aime beaucoup cette idée-là.
Permettez, si vous le voulez bien, que je cite ces verbes-là pour...
faire la liste, oui,
ben
allez-y.
Oui, pour les auditeurs, c'est parce que c'est quand même relativement court. Alors, on commence avec jouir.
Ah, ça, ouh. C'est un beau début.
Croire, exprimer, ça là on se rejoint, respecter, douter, apprendre, quitter, assumer, espérer, pardonner, vieillir, aimer, mourir. Et puis un dernier petit chapitre à vous, avec, très important, des pages blanches.
Oui.
Je voudrais qu'on en parle tout de suite des pages blanches, parce qu'avant d'avoir lu ce que vous avez écrit, je me suis dit, oh je sais pourquoi elle a mis ça. Je m'en doutais.
Oui, c'est parce que pour moi, si moi j'avais cette envie-là personnellement, comme c'est un essai, je me suis dit, peut-être que l'envie va être contaminée.
Exactement.
Peut-être que le lecteur va éprouver tout à coup, soit l'envie de piquer une phrase, ou soit l'envie de continuer un verbe à sa façon pour sa vie, pour sa propre expérience. Puis je voulais qu'il y ait quelque chose pour le faire. Parce que des fois, on veut faire ça, ça nous vient... Puis là, j'avais des pages à la fin. Mais il y a mieux que ça, c'est que j'ai un petit carnet avec la même couverture que je donne quand je suis dans les salons du livre, qui vient avec moi, qu'on a imprimé à quelques milliers d'exemplaires, pour pouvoir les offrir à ceux qui me rencontrent et qui ont aussi une dédicace. Alors, ça me faisait, tiens, un petit cadeau supplémentaire. Et ce que j'aimais, c'est que ça faisait une grande plage quand on met les deux livres un à côté de l'autre, le carnet et le livre. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de petits oiseaux sur le bord d'une plage.
Vous avez un profond respect pour les gens qui vous lisent, hein, Marie Laberge.
Oui, c'est vrai.
On pourrait penser...
Et même de l'amour.
Et même de l'amour. Parce qu'on pourrait penser, oui, oh, ben, c'est normal, c'est une vérité. Mais non. Je suis convaincue qu'il y a parfois des gens qui écrivent et qui n'ont même peut-être pas...
L'idée même de la personne qui va le recevoir. Je crois qu'on l'a nécessairement quand on corrige. Quand on corrige son livre, il faut penser à celui qui va le lire, parce que sinon, on corrige pour rien, comme dans les airs. C'est vraiment comme quand on assaisonne un mets. Il faut penser, attends, y a-t-il du monde qui n'aime pas ça salé? Il faut y penser tout de suite. Les gens qui vont être à notre table, qu'est-ce que c'est qu'ils mangent et qu'est-ce qu'ils ne mangent pas? Bon, dans l'élaboration d'un menu, mais il reste que, pour moi... J'ai été très chanceuse dans ma vie. J'ai eu le bonheur d'être lue. Et c'est une chose qui n'est pas donnée à tout le monde et c'est une chose qui n'est pas constante et qui n'est pas accordée pour toujours. Moi, chaque livre que je sors, je ne sais pas s'il va être lu. C'est sûr que ça a l'air fou de dire ça à cause des tirages que j'ai eus, puis les gens se disent, ben là, elle nous fait le coup. C'est pas vrai. Le doute est toujours là, profond, vrillé dans moi. C'est pas possible que je me dise, ah, oh, les gens vont aimer ça. C'est pas vrai. C'est toujours... Un essai, c'est toujours une proposition, c'est un témoignage. Mais c'est vrai que j'éprouve, en fait, probablement que c'est ce qui m'anime et c'est ce qui fait que j'écris. C'est mon amour des êtres humains. C'est l'autre qui m'intéresse.
Et vous savez, ça m'intéresse d'autant plus ce que vous dites, Marie Laberge, que lorsque je m'adresse à des lecteurs ici, qui lisent vos livres, mais tous les autres livres, je leur dis toujours, parce qu'à un moment donné, j'ai donné des petites formations à lecture, tout ça, bref. Et je leur disais, je vous en supplie, quand vous lisez un livre, pensez à celui qui le reçoit. Vous n'êtes pas l'auteur, mais vous êtes la voix de l'auteur.
Oui, vous êtes...
Vous êtes le trait d'union.
Oui, absolument.
Alors, je vous en prie, et oui, mais comment on fait ça? Ben, je dis, imaginez une seule personne.
Voilà.
Une personne
voilà.
À qui vous êtes en train de raconter une histoire.
Oui, je pense qu'il y a une direction. Voilà. Il y a quelqu'un à qui ça s'adresse. S'il n'y a pas de direction... C'est comme dans l'eau, ça ne marche pas.
Alors, vous l'avez expliqué très bien en avant-propos, vous nous racontez pourquoi ce livre. Et puis, moi, tout de suite, dès les premières lignes, je me suis dit, dès que j'ai lu cette livre, je me suis dit, mais alors, même si je lui demandais dans 3 semaines, est-ce qu'il y aurait un nouveau mot? Voyez-vous, donc j'étais vraiment dans votre direction.
Sauf que
vous pensez 10 ans ou 20 ans. Vraiment. Mais, et là, aujourd'hui, si je vous demandais, là, tout de suite, Est-ce qu'il manque un mot? Non.
Je ne sais pas, il en manque toujours. Moi, je n'essaie pas d'être complète ni parfaite parce que c'est un défi qui va me paralyser. Ce n'est pas un bon défi pour moi, ça.
Non, c'est ça.
Si je pense à ça, on va recommencer la première page toute sa vie. Je n'ai pas envie de ça, je m'ennuierais. Puis finalement, je pense qu'être parfaite, ça ne m'intéresse pas trop. Mais parce que je pense que les gens parfaits, on ne les aime pas tant que ça. Alors que les imperfections, c'est ce qui nous émeut, c'est ce qui nous touche. Alors, bon, je la cultive pas, l'imperfection, mais disons que être parfaite, ça marche pas avec moi. Alors, je sais qu'il en manque, je sais qu'il y a des moments où oser aurait peut-être été une bonne idée. Il y en a plein. Mais en même temps, ce que j'essayais de faire, c'est de trouver la structure qui fait que le verbe vivre est fort.
Oui.
La structure de vie, c'est-à-dire ce qu'on a, ce qu'on acquiert, ce qu'on abandonne et ce qu'on gagne. Et à mon avis, tout ça peut se faire toute une vie durant. Et j'espère qu'on peut essayer d'imaginer qu'on vive profondément, intensément, vraiment, jusqu'au bout de sa vie. Et non pas juste le temps où il est bon de danser.
Ah, très joliment dit. Vous devriez écrire. Bon, alors...
On va essayer.
Écoutez, évidemment, je ne peux pas évoquer
pas dire tout, ouais.
Tous ces mots-là, mais j'y suis allée très égoïstement vers ce qui peut-être me touchait le plus, et entre autres, le verbe « exprimer », où vous dites « voilà un verbe bien dodu ». Ça, j'adore. Un verbe titanesque, il contient tant d'autres verbes qu'il donne le vertige. Exprimer, c'est dire, danser, peindre, jouer, composer, réaliser, écrire, grimacer, crier, rire, pleurer, exploser, hurler. Exprimer, c'est se dire aussi faire connaître, informer, sensibiliser, toucher, atteindre l'autre. Et du coup, ça rappelle le contraire. Taire. Se renfermer, s'éloigner, renoncer, garder, cacher, dissimuler. Ça me touche particulièrement parce que je travaille entre autres avec des gens qui sont extrêmement timides et justement qui vivent un peu dans l'enfermement. Et je me disais, mon Dieu, cette phrase-là sur exprimer, c'est tellement exactement ça. Sortez, d'ailleurs, je l'ai fait danser souvent, je l'ai fait crier. Alors ça m'a touchée beaucoup. La vie vous a donné ce don pour l'écriture, inné, où vous avez dû travailler beaucoup d'ailleurs.
Je pense qu'on travaille toujours. Don est un don. Ce qu'on en fait, c'est le travail qui fait la différence. Je ne pense pas qu'un don suffise. Peut-être pour le premier coup d'envoi, je ne sais pas, peut-être pour l'éclatement d'un don. J'imagine un danseur dans son enfance pouvait peut-être être extraordinaire d'expression de lui-même. Mais je sais que pour acquérir un vocabulaire, pour acquérir une gamme, des nuances, il faut travailler.
Bien sûr.
Il faut travailler.
Alors, vous exprimez beaucoup dans vos livres, dans la vie aussi. Hein, vous êtes quelqu'un, vous
parlez. Oui, je suis assez expansive.
C'est ça. Je me disais, ben alors, quand elle s'exprime, est-ce que vous avez l'impression, est-ce qu'on en sait beaucoup sur Marie Laberge quand on a, parce que j'ai, tous les gens autour de moi ont tout lu de vous. Hein, parce que quand on aime Marie Laberge,
on passe au travers.
On passe au travers, hein, généralement. Mais c'est vrai.
Je ne sais pas si on me connaît, moi. Je ne le crois pas.
Non.
Parce que je suis quelqu'un de très capable de garder des secrets très, très loin. Et je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de tout dire de moi. Ce n'est pas un besoin que j'ai. De la même façon que je n'écris pas pour me connaître ou en apprendre un peu sur ma personne. Je ne suis pas en thérapie quand j'écris.
Non, je comprends.
Et pour moi, c'est vraiment important de créer une histoire. Mais c'est sûr que tout ce que je crée vient de ma sensibilité et de mon rapport au monde. Mmh. Donc, on connaît un peu mon rapport au monde ou ma ligne de tenue.
Oui.
Alors, c'est sûr qu'on en sait un peu sur moi. Est-ce qu'on sait tout? Non. Est-ce qu'on en a besoin?
Non.
Pas du tout.
Non, c'est ça. Pardonner. Mon Dieu, quel verbe important. Et j'étais très surprise de lire « Pardonner est venu sur le tard dans ma vie autour de la trentaine ». Vous trouvez que c'est tard?
Oui.
Moi, je trouve ça fantastique. Je veux dire, parfois, on passe une vie entière à essayer de pardonner.
Oui, à essayer, c'est vrai. Mais peut-être parce que le débat intérieur durait depuis presque 15 ans. J'ai longuement réfléchi à ce verbe. Et si je me réfère à ce que j'ai écrit en théâtre, il y a dans une pièce qui s'appelle « Pierre ou la consolation », c'est une pièce sur le pardon.
Oui.
Mais le pardon fait partie d'un des problèmes existentiels avec lesquels je me suis débattue longtemps. Aussi, il faut dire que moi, mon âge va le dire, j'ai 65 ans, mais c'est sûr que j'ai été élevée dans une religion où le pardon était totalement et constamment évoqué sans être jamais pratiqué. Alors pour moi, c'était comme une espèce de contradiction qui m'horrifiait et je me sentais moi-même inadéquate à le faire. Alors, c'était très compliqué pour moi parce qu'on ne parle que de pardon dans cette religion où j'ai été élevée, qui est la catholique. Et pourtant, on ne le fait pas beaucoup. Et pourtant, on abuse de ce pouvoir de pardonner qu'ont les prêtres et de ce pouvoir sur les ouailles qu'ils ont et tous les abus qu'ils ont commis. Il y a quelque chose chez moi qui s'est cassé dans cette espèce de quête de pardon. Mais en même temps, je crois profondément qu'un être humain qui ne sait pas pardonner est un être humain handicapé à vie parce qu'il se fait du mal. On pense toujours qu'on attaque l'autre quand on ne pardonne pas, mais c'est soi-même et sa capacité de rire, de vivre et de courir vers l'autre qui est handicapé. Et c'est ça qu'il faut apprendre. Mais c'est tellement long, tellement long. C'est comme aimer, hein? C'est long.
Oui, mais bravo d'avoir réussi à 30 ans.
Je peux dire, écoutez, je travaille encore dessus, ce verbe-là.
OK, d'accord. OK. Oh mon Dieu, que le temps file. Je savais que je voulais vous garder une heure de temps. Il nous reste encore quelques petites minutes, mais j'avais encore tellement de choses à voir avec vous. Bon, arrivons à la fin de ces pages-là et de cet essai-là. Je vous rappelle que je suis avec Marie Laberge, si vous venez tout juste de vous joindre à nous. On parle d'abord de cet essai 13 verbes pour vivre. Évidemment, naître et mourir, et entre les deux, notre immense responsabilité, celle de vivre. C'est ainsi que s'achève votre essai, avant que vous nous adressiez quelques mots. Et dans le roman que vous avez sorti pour célébrer votre 40e anniversaire, Dieu sait si la mort, l'absence, le manque, la culpabilité et tout ce qu'on veut est au cœur de ce roman qui s'appelle « Ceux qui restent ».
Oui, c'est vrai.
Encore une fois, une structure importante. Et pour vous, hein, la structure d'un livre, c'est absolument fondamental.
Je viens du théâtre et c'est un art où s'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de spectacle.
Voilà. Et c'est quelque chose qui se sent. Hein. On se souvient de la cérémonie des anges.
Oui, c'est vrai.
Avec elle et lui. Et là, Ce que vous mettez en scène, ce sont tous les personnages, Marie Laberge, au lendemain d'un suicide.
Enfin, à quelque temps, ça dépend du personnage, mais après le suicide.
Après
les
le
gens
suicide.
Qui étaient près, très proches de quelqu'un qui a décidé d'en finir.
Avec, alors, des personnages qui n'ont... Oui, qui ont tout à voir les uns entre les autres, parce qu'évidemment...
Il y a ce lien, oui.
Il y a ce lien, mais en même temps... différence d'âge, différents niveaux de langage,
de vie,
parce que ce sont des gens... Et là, je vous imaginais en train d'écrire, par exemple, quand on passe d'une Charlène qui est dans ce bar à Vincent, qui est le père, qui lui est prof. Hein.
C'est un dentiste.
Oui, c'est ça.
C'est un dentiste très bien élevé.
C'est ça, exactement.
Et qui écrit dans la norme.
Et alors, c'est remarquable parce que le niveau de langage, on sait tout de suite qui parle, on sait tout de suite oui. qui s'exprime. Évidemment, je me suis dit, mais est-ce qu'elle a vécu quelque chose comme ceci autour d'elle? Mais c'est pas ça d'ailleurs qui m'intéresse. Êtes-vous allé vous informer auprès de gens? Parce que je trouve, parce que moi j'ai déjà eu autour de moi des gens qui ont vécu cet enfer-là.
Et mais je pense que tout le monde connaît quelqu'un qui s'est tué.
Ouais.
Ça, je pense que dans notre société maintenant, il faut vraiment être sourd et aveugle pour ne pas voir, ne pas sentir qu'il y a une détresse terrible chez les gens qui sont proches. Moi, c'est sûr qu'il y a des gens qui se sont tués, mais jamais dans mon cercle immédiat. Je tiens à le dire parce que le cercle immédiat, quand son père, sa mère, sa sœur ou son amant ou son amante se tue, là, on est ailleurs dans le niveau de détresse que ça engendre. Mais je me sers de ma sensibilité, moi, quand j'écris. Et ma sensibilité est très grande et très ennuyante dans la vie, mais quand j'écris, c'est merveilleux.
En tout cas, vous êtes d'une lucidité... non, mais c'est vrai, imparable. Alors, il y a tous ces personnages. Il y en a, évidemment, qui se posent des questions, parce qu'en plus, ce fameux Sylvain-là n'a rien laissé, quoi.
Rien laissé, il avait 29 ans, donc c'était la vraie fleur de l'âge. Et puis, la violence qu'on s'inflige à soi en se tuant, on s'imagine qu'on est les seuls à la subir, on est les seuls à souffrir auparavant, et on ne s'imagine pas à quel point cette violence-là se répercute sur tout le monde. Tous ceux qui aiment la personne qui se tue sont des gens qui reçoivent un coup dont ils doivent se remettre, et un coup qui les marquera à jamais. Mais moi, je voulais voir comment on reprend sa vie, comment la vie revient, comment il faut aller vers la vie, mais comment c'est quand même possible. Et c'est avec chacun, et chacun à sa façon. Hein. Il y en a que c'est par la rage, il y en a que c'est par la miséricorde, il y en a que c'est par la réflexion, il y en a que c'est par le déni. Chaque être humain est intéressant dans sa souffrance. Ouais. Mais là, il y en a quand même là-dedans des... Il y en a des drôles aussi.
Il y en a des drôles aussi.
Parce que c'est quand même un hymne à la vie.
Oui, exactement. Et donc, en fait, ce sont deux hymnes à la vie que vous nous avez donnés en héritage pour vos 40 ans de carrière littéraire. Marie Laberge, c'est tout le temps qu'on a. Ça me navre. Merci infiniment d'être venue.
Clotilde,
ici.
Merci.
De rien. Des livres pleins les oreilles. Seconde partie. Alors voilà, de Marie Laberge dans le studio, il ne reste que quelques belles effluves d'ailleurs de parfums et puis des mots hein, de cette belle entrevue qu'elle nous a donnée à l'émission Des livres pleins les oreilles que vous continuez d'écouter avec Clotilde Say toujours au micro. Et en ce début de seconde partie, comme ce sera une habitude maintenant, un extrait d'un livre dont il aura été question et évidemment, j'ai choisi aujourd'hui un extrait du livre « Ce qui reste » dont nous avons parlé un petit peu plus tôt avec Marie Laberge qui en est l'auteur. Alors, je vous rappelle que tous les personnages gravitent autour d'une et au lendemain ou parfois au surlendemain d'une disparition, celle de Sylvain qui les relie tous les uns aux autres. Et moi, un des personnages qui m'a peut-être le plus marqué dans ce livre-là, c'est le personnage de Muguette. Muguette, c'était la mère de Sylvain, celui qui a choisi de se donner la mort. Alors voici cet extrait, nous sommes en page 105. Après la découverte du corps de son fils, Muguette ne supportait plus rien. Le choc ne passait pas. Terrorisée par le moindre bruit, elle s'enfermait dans sa chambre et refusait d'en sortir. Assister aux funérailles avait constitué sa dernière sortie. Et encore, sous l'emprise de puissants calmants, elle avait à peine conscience de la réalité qui l'entourait. Même la haine féroce qu'elle ressentait pour l'homme qui avait été son mari elle n'arrivait pas à en discerner la source exacte. Du jour au lendemain, cet homme si peu secourable était devenu son ennemi. Il lui parlait comme à une grande malade et la consultait pour des choses horribles, comme de décider s'il fallait incinérer leur fils, si elle connaissait sa préférence. Comment ? Pourquoi saurait-elle une chose pareille ? Qu'il aille demander à la sans-génie qu'il avait épousée, qu'il aille constater si elle avait une réponse intelligente à une question aussi stupide. Elle voulait qu'il se taise, qu'il quitte sa chambre et la laisse tranquille. Elle ne voulait plus jamais avoir affaire à lui. La seule présence qu'elle supportait était celle de sa belle-mère, blanche, terrassée, brisée, ne pouvait refuser de l'aider. D'autant plus que c'est Vincent qui le lui demandait. Sinon, il se serait rongé d'inquiétude, alors qu'il était déjà démoli. Depuis 3 mois, leur vie avait complètement basculé. Vincent habitait l'appartement de sa mère, qui, elle, occupait la chambre d'amis chez lui, en prenant soin de Muguette. Vincent avait mis la maison de campagne en vente et il s'apprêtait à aller se perdre dans la forêt et à rénover ce qui était encore une grande cabane de bois, sans beaucoup d'aménagements pratiques. La maison s'est vendue telle qu'elle, entièrement meublée. Vincent se fichait pas mal de perdre au change. Mais il fallait la vider des effets personnels. L'épreuve lui avait paru colossale. Il avait appelé sa fidèle secrétaire. « Si je peux quoi que ce soit pour vous aider, n'hésitez pas. » Et ils avaient trié, jeté et donné pendant des jours. Ils avaient tellement serré les dents qu'il en avait fait une inflammation des joints temporomandibulaires. Finalement, sa fuite dans la maison au fond des bois ne tenait plus. Malgré tout le désir d'isolement qu'il ressentait, Vincent n'avait pas le cœur de laisser le fardeau de Muguette reposer entièrement sur les épaules de sa mère. Elle n'était plus jeune. 2 fois par semaine, il passait la prendre et sortait avec elle. C'était indispensable pour sa santé mentale. Muguette étant presque délirante à l'occasion, son discours s'égarait entre les époques, elle confondait tout, s'arrêtant soudain pour demander à Blanche si c'était son mari ou son fils qui était mort. Elle avalait des tranquillisants selon son envie. Et Blanche n'arrivait pas à savoir si cette confusion provenait des médicaments ou d'un désordre mental. Elle racontait tout à son fils. L'état de sa bru la laissait perplexe. Il passait beaucoup de temps à déterminer s'il fallait la forcer à voir un spécialiste ou si elle reprendrait pied avec le temps. Pendant ces rencontres, Vincent donnait des nouvelles de Mélanie et de Stéphane. Blanche repartait, encouragée, parce que son fils, même triste et marqué par l'épreuve, pensait aux autres et s'y intéressait. C'était le pire aspect de Muguette, ce détachement rageur de tout autre sujet que ses problèmes et ses rancœurs. Blanche n'était pas convaincue qu'une partie du cerveau de Muguette n'avait pas éclaté en trouvant son fils, sinon elle ne pouvait pas comprendre pourquoi son petit-fils la laissait indifférente. Que son mari soit rejeté, accusé du pire, c'était possible. Dans sa vie, Blanche avait vu bien des gens se décharger de leur culpabilité en chargeant l'autre. C'était un vieux réflexe de survie dans bien des couples. Mais que l'enfant de son fils disparaisse des préoccupations de Muguette lui semblait bizarre. En discutant avec elle, en lui montrant des photos, elle se rendait compte que Muguette confondait les 2 enfants. Stéphane, à 4 ans, était Sylvain, à 4 ans. Et elle repartait vers sa chambre en disant qu'elle ne voulait pas y penser. Au bout de 6 mois, Blanche était épuisée. Les sorties avec Vincent s'étaient multipliées pour lui permettre de tenir le coup, mais elle avait 82 ans et elle manquait de force pour affronter les crises de sa belle-fille, encore capable de se débattre.
Tu posais nu de dos pour des calendriers. Tu faisais des photos mais rêvais de danser. Petite poupée blonde aux cheveux décoiffés. T'en venais de l'ombre et rêvais de gagner le soleil, et les hommes se mirent à te désirer pour un de tes sourires, pour une nuit volée. Ils te bâtirent un jour un palais de papier, Marilyn, que t'ont-ils fait? Et monsieur cinéma se foutait bien de toi. Il te faisait diva, mais tu n'étais que toi. Une gosse perdue.
Oui, ça nous fait drôle aujourd'hui hein, d'avoir ça dans un seul canal. Vous avez peut-être fait le même saut que nous. Bonjour Serge.
Bonjour, bonjour.
Serge Bradet, un habitué du micro. Hein, vous y prenez goût, hein, vous aimez ça. Hein.
Ah, beaucoup, oui, énormément.
Et Serge, je vous ai demandé, je vous ai dit, oh, vous qui participez si souvent à l'émission Les Voix de Service, est-ce que ça vous tenterait à un moment donné de venir à l'émission Des Livres Plein les Oreilles? Voyez-vous, c'est quand même pas désagréable, on fait des belles rencontres.
Absolument, absolument, absolument.
Et vous m'avez dit oui, et il y a un livre dont je veux parler. Je vais vous laisser le soin de nous le présenter.
Oui, c'est un livre sur Marilyn Monroe. Le titre, L'assassinat de Marilyn Monroe. Alors que la thèse officielle, c'est un suicide. Assassinat de Marilyn Monroe par Jay Margolis et Richard Boskin.
J'ouvre une parenthèse. Oui. La chanson que j'aurais voulu qu'on écoute dans de meilleures conditions, c'était une chanson sur Marilyn et sur le fait qu'il y a un paquet de gens qui se sont fichus d'elle. Je referme la parenthèse et je vous laisse parler. Okay.
Alors, Jay Margolis a passé 5 ans à enquêter sur la mort de Marilyn Monroe et Richard Boskin, lui, a publié nombre de biographies de célébrités, Elvis, Lady Di et dont Marilyn Monroe. Je vais lire juste un tout petit peu au dos du livre parce que ça nous situe bien le...
D'accord.
C'est l'enquête la plus complète à ce jour sur la mort de la star Marilyn Monroe. En cet été 1962, Marilyn Monroe a 36 ans et elle est au sommet de la gloire. Et elle fourmille de projets au niveau du travail. À 20h45, le dimanche 4 août, elle devise gaiement au téléphone avec son ami et amant occasionnel, le scénariste José Bolanos, et à 4h du matin, le 5, son cœur a cessé de battre. Aucune trace, c'est important de vraiment le retenir, aucune trace de médicament ne sera trouvée dans son estomac au cours de l'autopsie. Pourtant, le rapport officiel affirme qu'elle a ingéré 64 somnifères, démontrant ainsi son suicide. Jim Margolis et Richard Boskin refusent cette thèse, ancrée depuis un demi-siècle dans l'inconscient collectif. Marilyn ne s'est pas suicidée, elle a été assassinée de façon préméditée. Et leur conclusion est vraiment sans appel dans le livre. Le meurtre de l'icône est une affaire d'État. Ça dérangeait beaucoup. Elle dérangeait beaucoup de monde dans ces années-là. Les auteurs dévoilent dans ce livre le nom de l'assassin et de son célèbre commanditaire. Mieux, ils révèlent le mobile du crime. Pourquoi il fallait que Marilyn se taise à tout jamais.
Eh oui.
Un livre, c'est très, très documenté. C'est un livre un peu, j'ai trouvé un peu peut-être... ardu à lire parce qu'il y a beaucoup de noms donnés et de personnes à qui on fait référence et ça revient à un autre chapitre et là tu dis, mon Dieu, c'est quelle personne et tu reviens, il faut que tu refouilles un peu en arrière mais bon, ça fait partie des joies de la lecture d'un livre comme ça. Pour vous donner une idée, à la toute fin du livre, il y a une chronologie du 4 au 5 qui commence à 8h le matin du 4 août qui se termine à 10h30 le 5 août au matin et ça dure 17 pages. On nous dénote ça, là, 20h, 21h, 21h30, 21h30, 20h45. C'est donné, là, c'est bon.
C'est tout un exercice à lire, ça, d'ailleurs.
Oui, et il y a beaucoup de choses qui sont dérangeantes, qui font qu'on se dit, bien, effectivement... Évidemment, eux, leur point de vue, c'est l'assassinat de Marilyn Monroe. L'assassinat, ils sont partis dans ça, ils ont... Les preuves, d'après ce qu'ils nous disent, évidemment, il n'y a pas de preuves écrites, il n'y a pas d'enregistrement qui existe, mais on a beaucoup de... Ça soulève beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes, énormément de doutes. Il y a trois conclusions de sa mort, trois verdicts, pas verdicts, mais oui, qu'on a donné. Donc, il y a le suicide, simplement, elle s'est suicidée. Elle a pris des médicaments, elle s'est suicidée.
Trois causes, quoi.
Trois causes, oui, c'est ça. Ou un suicide accidentel. Elle a pris trop de médicaments sans s'en rendre compte. Elle a dépassé les doses.
Avec de l'alcool?
Oui. Non, elle a pas bu cette journée-là. C'est vraiment très détaillé. Elle a pas bu la journée. Et très, très peu mangé, d'ailleurs, aussi. Ensuite, assassinat. Troisième. Quatrième, l'autopsie faite par le docteur Thomas Noguchi. Il a fait l'autopsie devant un procureur de la couronne qui enquêtait. Et à la fin de l'autopsie, le procureur lui a donné le papier pour qu'il signe et il avait marqué « suicide », le procureur. Et le docteur Noguchi a dit « Ah non, je ne peux pas signer ça. Je ne signerai pas ça. »
Ah oui?
Oui. Alors le procureur a rajouté à « suicide »« suicide probable ». Et le médecin légiste a dit « Ben ça, il dit, je peux le signer. » Un peu à contre-cœur.
Ah, OK.
Alors, on a quatre versions.
Oui.
quatre vraiment, là, tu dis, mm-hmm. bon. Et ce qui est le plus... C'est le paquet de gens qui sont autour de Marilyn et qui sont des gens influents dans différents domaines, mm-hmm. Politique, mafia, FBI, son psychiatre, et qui ont, à un moment donné, tous intérêt à la faire taire. On voulait la faire taire. Peut-être pas la tuer, mais la faire taire. Marilyn avait...
Mais elle parlait tant que ça? Qui donc?
C'est qu'elle a menacé de parler, de révéler des choses.
Ah.
Marilyn a été la maîtresse de John F. Kennedy, le président assassiné en 1963. Lui, à un moment donné, n'avait... Bon, il collectionnait les aventures. Kennedy, ouais, c'était ouais, un ouais. très chaud lapin, on le sait maintenant. Mm-hmm. À un moment donné, il a terminé sa relation. Il voulait la terminer. Marilyn l'a très mal pris. Et il a envoyé son frère, Robert Kennedy, qui était secrétaire à la justice aux mm-hmm. États-Unis, mm-hmm. l'équivalent de notre ministre de la Justice ici, oui. l'a envoyé pour régler ça avec Marilyn et la lui faire comprendre. Robert Kennedy est devenu amant de Marilyn Monroe. Ça fait deux Kennedy, deux frères. Marilyn Kennedy avait son psychiatre, le Dr. Greenson, qui est également devenu son amant.
Et Marilyn Monroe,
Marilyn Monroe, oui. Et un psychiatre n'est pas supposé, c'est défendu dans le code d'éthique, d'avoir des relations sexuelles avec ton patient. Tu peux être radié de l'ordre. Ensuite, il y avait la mafia. La mafia voulait savoir ce que Marilyn savait du FBI. Le FBI, lui, désirait connaître ce que Marilyn savait du lien de Sinatra avec la mafia, parce qu'elle a été... la maîtresse occasionnelle de Sinatra. Ah, c'est tout un... Oui. Et Jimmy Hoffa, le fameux syndicaliste qui est disparu, voulait lui savoir ce que Marilyn et les Kennedy... c'était le lien... C'est quoi le lien entre... il voulait savoir ça pour son usage personnel et faire chanter éventuellement les politiciens. Il faut savoir que la maison de Marilyn Monroe était truffée de micros que tout oui. ce monde-là a mis dans la maison. Hoffa, le FBI, la mafia. La maison était truffée de micros. Quand elle est décédée, dans la nuit, dès qu'ils ont découvert, donc ils ont annoncé son décès, il y a une équipe qui est rentrée dans la maison pour nettoyer la maison de tous les micros, sortir les micros de la maison complètement, pour ne pas qu'on découvre ça. Il y a des enregistrements qui ont été découverts. Mm-hmm. Il y a quelqu'un qui a écouté. Je vous fais lire.
Oui.
Un extrait. Je vous fais lire. Je vous lis, oui.
Oui.
Ça serait passé, à un moment donné, dans la journée, vers 9h30 le soir. Marilyn était au téléphone avec son amant occasionnel, M. Bolanos, et elle a entendu des bruits dans une pièce, un petit peu à l'extérieur de sa maison, dans une pièce pour les invités, un petit pavillon pour les invités. Elle s'est rendue là. Et elle a découvert Bobby Kennedy, secrétaire de la justice, qui était là avec deux hommes qui fouillaient pour découvrir un petit carnet rouge dans lequel elle mettait toutes ses notes et tout ce qu'elle avait entendu de conversations politiques dans les dîners où elle était avec Robert Kennedy. Et là, elle est devenue furieuse, elle voulait les mettre à la porte, et là, ce qu'on entend sur l'enregistrement, le témoin dit « c'était horrible ce que j'ai entendu », on entendait deux hommes se parler et dire « allez, une autre piqûre, pas trop vite, il faut l'endormir ». Il y avait des bruits d'étouffement atroces, comme quelqu'un qui est étouffé par un oreiller. Et après avoir entendu ces bandes, il ne fait aucun doute pour moi que Marilyn a été assassinée. Un informateur confidentiel a expliqué à ce monsieur Margolis, il y avait des marques de piqûres derrière les genoux et dans la jugulaire, ainsi que des ecchymoses, les bras et dans le dos.
Ben voyons donc.
Et juste pour... Je ne peux pas tout vous
non,
rappeler.
Non, c'est ça. Non, de toute façon, il faut que les gens aussi lisent le livre.
Ben c'est ça, oui. Mais la conclusion du livre, c'est qu'elle dérangeait beaucoup de monde. Donc ouais. Et elle a menacé les frères Kennedy qui l'avaient lâché parce qu'elle disait aux frères, des frères Kennedy, elle a dit ça à ses amis, des gens du milieu, ils m'ont considéré comme une pièce de viande.
Mmh.
C'est assez imagé.
Oui.
Alors, je n'accepte pas ça et je refuse ça et ils vont... Je veux que les gens le sachent. Et ça, c'était le 4 août. Et le 6 août, lundi, elle avait prévu une conférence de presse
mm-hmm.
pour dénoncer, pour annoncer à tout le monde les liaisons qu'elle avait été la maîtresse de John et Robert Kennedy. Imaginez le scandale. En plus, c'est que Robert Kennedy a fait accroire au psychiatre Greenson. Il l'a appelé et lui dit « Écoutez, Marilyn est incontrôlable. Elle veut faire une conférence de presse lundi. » pour dénoncer, pour que les gens sachent que nous avons été ses amants, son frère et moi. Et en plus, Dr. Grayson, elle va dévoiler que vous avez eu, vous aussi, des relations sexuelles avec elle.
Oh là là!
Alors, le médecin, les frères Kennedy, une carrière politique se finit, mais Grayson, lui, aurait été radié et a même pu faire de la prison. Et quand les ambulanciers sont arrivés, qu'ils ont trouvé le corps de Marilyn, elle était encore en vie. Oui, elle est vivante encore et les ambulanciers ont mis un respirateur artificiel et elle était en train de revenir à la vie. Dr. Grissom arrive, il dit aux ambulanciers, vous la débranchez, je vais lui faire une injection qui va la réanimer. Il lui a injecté dans le cœur du nébo quelque chose. Les ambulanciers sentirent que c'était de l'adrénaline. Et après la piqûre du Dr. Grissom directement dans le cœur, elle est morte quelques minutes plus tard.
Oh là 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 là.
C'est une histoire,
c'est fantastique. Des faits.
Oui, fantastique.
C'est ça. On aurait voulu
c'est
écrire
passionnant,
un roman.
Passionnant.
Oui, absolument. Oui. Mm-hmm. Merci beaucoup, Serge Bradet. Voudriez-vous nous redonner le titre,
oui,
s'il vous plaît, de ce livre?
L'assassinat de Marilyn Monroe, de Jim Margolis et Richard Buskin, qui a été lu ici par les studios.
C'est ça.
Et je ne sais pas si c'est actuellement disponible, mais probablement, si ça ne l'est pas, ça va être bientôt, parce que le livre, moi, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Pour le lire, et c'est ça que j'ai décidé de venir faire. Là, de
oui,
vous
oui,
de
mais
faire
mais regardez, j'imagine qu'on a déjà été vérifié, parce qu'en mm-hmm. principe, on vérifie absolument toujours. Mm-hmm. Je voudrais dire que Margolis, ça s'écrit, ça s'appelle Margolis, mm-hmm. et Richard Buskin, Buskin. Voilà, mm-hmm. pour vous procurer assez rapidement mm-hmm. ce livre qui, encore une fois, c'est une question de jour. D'ailleurs, je suis sûre qu'au moment où l'émission sera diffusée, parce qu'on a toujours un petit mm-hmm. peu d'avance, mm-hmm. il n'y aura pas de problème. Merci beaucoup, mm-hmm. Serge Bradet.
Plaisir.
Bye. Alors, on me confirme qu'il est déjà disponible, voyez-vous. Alors, il n'y aura pas de problème. Mm-hmm. Parlons de Margaret Atwood. Oui, un sujet qui fait... Un sujet national, comme on dit. C'est-à-dire que vous savez que c'est cette énorme écrivaine canadienne-anglaise qui est Margaret Atwood. Tantôt, je parlais, lorsque Mme Laberge était là, Marie, et qu'on parlait avec Huguette Roussel de Martin Michaud, qu'il allait être porté au petit écran. Eh bien, figurez-vous que Mme Atwood aussi... C'est la raison de cette rubrique des nouvelles et des livres qui nous permet de parler de cette grande dame de la littérature canadienne et porte-étendard aussi, hein, faut le redire, de la liberté d'expression au sein du PEN international. Et bien voilà, qui va faire une percée dans l'univers télévisuel à une adaptation, grâce à une adaptation de son roman Captive. Ce sera une mini-série qui va être scénarisée et produite par Sarah Polley. S'accumulera 6 heures d'antenne et ce sera présenté sur les ondes de CBC, mais également de Netflix. Elle mettra en scène Sarah Garden, ou Gaydon, G-A-D-O-N, mais également Mme Atwood en personne qui va faire une espèce d'Alfred Hitchcock d'elle-même.
Ah bon?
En effet, elle va apparaître très brièvement. Elle y ferait ce qu'on appelle un caméo, alors qu'elle jouera lors d'une scène se déroulant à l'église et nous la verrons, l'air désapprobateur. Le tout sera tourné. C'était tourné le 16 août prochain. Alors, cette nouvelle est l'occasion de rappeler qu'un autre roman de Margaret Atwood, La Servante Écarlate, est également en cours d'adaptation pour le petit écran avec Elizabeth Moss et Samira Wiley. Et on pourra écouter le tout en 2017. Il y a un livre, Captive d'abord, là, peut-être que je vous en parle un petit peu, le résumé de cette histoire-là. On est en 1859 et là aussi, c'est une histoire complètement rocambolesque. Elle s'appelle Grace Marks, qui est l'héroïne, si vous voulez. Elle est condamnée à perpétuité et sa vie s'étiole dans un pénitencier canadien. À l'âge de 16 ans, Grace a été accusée de 2 horribles meurtres. Personne n'a jamais su si elle était coupable, si elle était innocente ou si elle était folle. Lors de son procès, après avoir donné 3 versions des faits, ceci explique un peu cela, Grace est murée dans un espèce de silence. Alors, est-ce une amnésie? Est-ce une dissimulation? Il y a un docteur qui s'appelle Simon Jordan qui veut découvrir la vérité. Il va gagner sa confiance. Il découvre peu à peu la personnalité de cette jeune femme, Grace, qui ne semble absolument pas ni démente ni criminelle. Mais alors, pourquoi lui cache-t-elle, entre autres, les troublants rêves qui la hantent durant la nuit? Et s'est inspiré d'un sanglant fait divers qui avait bouleversé le Canada du 19e siècle. Et c'est donc un roman baroque, si vous voulez, où le mensonge et la vérité se jouent du lecteur, que Margaret Atwood nous avait offert en nous présentant Captive, qui, je vous le rappelle, sera sur nos écrans en 2017, du moins si vous avez la chance d'avoir accès à CBC ou encore à Netflix. Captive de Madame Margaret Atwood. La semaine prochaine, je reçois notamment Juliana Léveillé-Trudel, qui est une femme dont on a déjà parlé. C'est fou, Serge, voyez-vous, c'est que les livres, c'est magique. Combien de fois, quand je sais que dans 2 ou 3 semaines, je vais parler d'un livre, il n'est pas rare qu'un invité, la semaine d'avant ou 2 semaines avant, me parle de ce bouquin.
Ah oui?
Et c'est exactement ce qui est arrivé assez récemment avec quelqu'un qui m'a parlé de ce livre-là, de Juliana Léveillé-Trudel. Pour vous dire, je vais aller voir sur la page de couverture à l'intérieur, c'est vraiment le meilleur résumé que je puisse trouver parce que je ne l'ai pas encore lu, j'ai encore une semaine pour le faire avant d'accueillir cet auteur. Une jeune femme du Sud qui, comme les oies, fait souvent le voyage jusqu'à Saluit, parle à Eva, son amie du Nord, disparue dans le corps et dans l'eau du fjord et l'esprit partout. Le Nord est dur, il y a de l'amour violent entre les murs de ces maisons presque identiques et la missionnaire aventurière se demande comment on fait pour guérir son cœur. Alors elle s'active, elle s'occupe des enfants qui peuplent ses journées. Elle donne une voix aux petites filles inuites. Elle raconte aussi à Eva ce qu'il advient de son fils, Elia, parce qu'il y a forcément une continuité, une descendance après la passion et puis la mort. Et on nous dit ici que Juliana Léveillé-Trudel livre un récit d'amour et d'amitié beau et rude, comme la toundra. Nirlit partage la beauté en forme de coup de poing dans le ventre qu'exhale le Nord. C'est exactement ce que m'a dit notre amant Anne-Laure Janson, qui travaille avec moi sur cette émission-là et qui m'avait parlé, elle aussi, de ce livre-là en me disant « C'est un livre essentiel, il faut à tout prix que tu l'invites. » Alors voilà, « La route est longue », c'était, ça vient de me revenir, c'était Tristan Malavoie, l'auteur aussi qui est venu ici la semaine dernière et qui m'avait dit que dans ses 3 livres préférés, il y avait ce livre-là. Je lui avais dit, c'est fou parce que je reçois l'auteur deux
incroyable.
Semaines. Juste un petit mot, un petit extrait, je veux dire, nous sommes en page 15 au tout début du livre. « La route est longue jusqu'à chez toi, Eva. » Saluit, 62e parallèle, bien au-delà de la limite des arbres. Saluit, roulé en boule au pied des montagnes. Saluit, le fjord au creux des reins. Et 16 kilomètres plus loin seulement, le grand détroit du Tson qui te conduira peut-être jusqu'à l'océan Arctique. Qui sait? Il faut venir par les airs, comme les oies. Nirlit, je refais inlassablement le chemin du sud au nord, puis du nord au sud, chaque fois que l'été revient, chaque fois que l'été se termine. C'est divinement bien écrit. Mmh, mmh. C'est divinement bien écrit. J'ai très, très hâte de recevoir Juliana Léveillé-Trudel la semaine prochaine pour ce livre Nirlit. Alors, avant de vous donner quelques titres de nouveautés en rafale, laissez-moi avoir le plaisir de vous dire les autres livres de Marie Laberge qu'on retrouve au SQLA. Le goût du bonheur, c'était avant la guerre à Lens-Agile, Annabelle, Juillet. Bon, Le goût du bonheur, évidemment, ça c'est la trilogie. Hein. Mauvaise foi, Le poids des ombres, Quelques adieux, Revenir de loin et Sans rien ni personne. À l'Inca, vous allez trouver La cérémonie des anges. Alors, aujourd'hui, j'ai quelques nouveautés pour vous, notamment ceci, L'esclavage raconté à ma fille. Pardon pour les bruits de papier, mais oui, je tourne des pages. L'esclavage raconté à ma fille, c'est de Christiane Taubira, cette ministre, ancienne ministre de la Justice en France, qui a démissionné. Et quand elle a démissionné, ensuite, elle est sortie de l'Élysée, elle a pris son vélo, puis elle est partie, parce qu'elle venait à l'Élysée en vélo. Une sacrée bonne femme. La traite et l'esclavage furent le premier système économique organisé autour de la transportation forcée de population et de l'assassinat légal pour motif de liberté. Pour marronnage. Et ce système a perduré pour l'Europe durant plus de 4 siècles et pour la France durant plus de 2 siècles. C'est cette histoire de l'esclavage qu'elle raconte à sa fille, Madame Taubira, Taubira. Oh, allez, un bon petit polar avec Denis Lehane. Ça s'appelle « Ce monde disparu ». Pour les Québécois, la Floride, c'est surtout un havre de chaleur pour les snowbirds qui vont s'y réfugier. Quand l'hiver fait rage, eh bien, dans certaines bourgades, oui, c'est vrai, on retrouve même des journaux en français. Mais c'est un phénomène de la fin du 20e siècle qui n'existait pas encore à l'époque de ce roman. C'est un thriller efficace, un peu comme un nouveau parrain, nous dit-on, qui se passe en Floride et qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment des trafic, et puis on s'en va à Cuba, et puis en tout cas, entre Cuba et la Floride, là, il n'y a pas beaucoup de kilomètres. Hein. Non, c'est très bien. Et c'est, voilà, alors c'est dans ces eaux-là que Dennis Lehane, ou Lehane, L-E-H-A-N-N-E, navigue avec ce monde disparu. Vous êtes très nombreux à lire du Louise Tremblay Desciambre. Sachez que de sa série Boomerang, La promesse à Élise est maintenant disponible. Et puis de Gilles Archambault, qui a également beaucoup d'admirateurs, Doux Dément, c'est un personnage qui s'appelle Gilles Archambault. Tiens donc, dans ce livre-là, mais ce n'est pas l'auteur qui se raconte. Il a choisi comme nom de personnage le même nom que le sien.
Ah.
OK, mais si vous aimez, il faut savoir que monsieur donc Gilles Archambault vient de sortir Doux Dément. Et puis de Louise Portal, que j'avais déjà accueilli ici à l'émission, son livre Pauline et moi sort également et est disponible maintenant. Vous savez, sa sœur, madame Pauline, voyons comment elle s'appelait, Lapointe, qui est décédée il y a maintenant quelques années, elle revient là-dessus. Madame Louise Portal, dans ce livre qui s'appelle Pauline et moi. Ça n'a pas toujours été facile entre ces deux sœurs-là. La relation n'a pas été évidente. On a aussi une pensée pour Sylvie Moreau qui vient de perdre sa sœur Nathalie. Mmh. Voilà. Mmh. Il ne me reste plus que quelques secondes pour remercier tous mes invités, dont Marie Laberge et Serge Bradet. À la semaine prochaine.